VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Conakry, 14h à Bangui, bienvenue à notre journal. En RDC, c'est aujourd'hui que le dialogue qui se tient sous les bons offices de la CENCO, la conférence épiscopale catholique, reprend à Kinshasa. Les évêques qui étaient rentrés dans leur diocèse respectif sont de retour pour amorcer la dernière ligne droite des travaux. Un accord devrait être signé à la fin de la semaine. Les détails avec Gino Rema de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Il s'agira d'une plénière pour adopter les documents de compromis selon une source proche des prélats catholiques. La même source renseigne que la petite équipe mise en place le week-end dernier a eu à travailler depuis lundi, même si le travail n'était pas costaud. D'après elle, les divergences qui restent sont minimes. Elle parle notamment de la nature et valeur juridique du document, de l'assignation de la primature à une composante, et sur ce point, on parle de plus en plus du rassemblement et de la refonte de la CENI. Concernant la CENI, nous a-t-elle révélé qu'il n'y a pas vraiment de problème, car certains délégués non signataires de l'accord Kodjo n'exigent pas une refonte totale de la CENI. Pour ce qui est de l'adoption de l'accord, déjà ce jeudi, une réunion des évêques est prévue avant la plénière pour adopter une nouvelle stratégie afin de pousser non seulement à l'adoption de l'accord, mais aussi à mener des plaidoyers et lobbying au plus haut niveau, c'est-à-dire auprès de ceux qui donnent des instructions à leurs délégués aux négociations directes afin de s'engager pour l'adoption et la signature de l'accord qui pourra intervenir officiellement et solennellement le vendredi.
Gino Rema de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa. RDC toujours, fin du procès des 49 personnes arrêtées lors des manifestations du 19 au 22 décembre à Lubumbashi, chef-lieu du Haut-Katanga. 15 peines de prison ont été prononcées et il y a eu 34 acquittements. De Lubumbashi, notre correspondant Narval Mabila.
C'est ce mercredi, dans la soirée, que le tribunal a rendu son verdict. 15 personnes sont condamnées à 3 ans de servitude pénale. C'est la grande désolation pour les membres de famille. D'autres personnes sur les 49 ont été acquittées. C'est la grande satisfaction, comme s'exprime un acquitté.
Je suis très content, très heureux que la justice vient d'être faite.
La plupart ont été défendus par un collectif d'avocats bénévoles. Maître Kessakula est à moitié satisfait et compte aller en appel pour les 15 autres condamnés.
Je suis un peu et à moitié soulagé parce que pour moi, il fallait libérer tous les 49. Et maintenant, nous irons en appel contre les autres qui sont restés là-bas. Et surtout qu'il y a eu un fou qui étaient parmi eux, qu'on les a tous poursuivis en Corée et que cette infraction ne pouvait pas tenir si on libère quelqu'un et on garde les autres.
Il y aurait des centaines de personnes qui croupissent dans les locaux de la police et de l'Agence nationale de renseignement. Même les avocats font l'objet d'enlèvements. Aujourd'hui à Lubumbashi, c'est un climat de terreur qui règne. Lubumbashi, Narval Mabila, VO Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Nigeria, le chef de Boko Haram, Abubakar Shekau, a diffusé ce jeudi une nouvelle vidéo dans laquelle il conteste les affirmations du gouvernement nigérian selon lesquelles le groupe djihadiste a été chassé de la forêt de Sambisa, un de ses derniers bastions dans le nord-est du pays. « Nous sommes en sécurité, nous n'avons été chassés de nulle part et les tactiques et les stratégies ne peuvent pas révéler notre position, sauf si Allah le veut », a déclaré Shekau, entouré de combattants cagoulés et armés dans une vidéo de 25 minutes. Mais les autorités nigérianes sont plus que jamais déterminées à en finir avec les islamistes de Boko Haram. La nouvelle de la reconquête de la forêt de Sambisa par l'armée nationale est d'ailleurs célébrée comme une étape majeure dans le rétablissement de la sécurité dans le nord-est du pays. Pour une analyse, Timothée Donomai a joué au Nigeria le professeur Akambi Ilupeju de l'Université de Lagos.
La situation actuelle est que ils ont réussi à les chasser de leur bastion principal et l'armée nationale compte maintenant transformer cette bastion en terrain d'entraînement pour l'armée nationale. Et bien, cela n'empêche pas qu'on ait des attentats ici par là parce que les insurgés, en fuyant, veulent toujours faire savoir qu'ils existent. Alors on ne peut pas empêcher d'entendre des bombes ici, par là.
C'est clair qu'ils sont nombreux à se disperser au sein de la population civile. Comment parvenir à les contrecarrer?
Vous voyez, la situation ethnique du pays fait que, selon la tradition, il y a certaines localités que tout de suite, quand ils ont des étrangers parmi eux, signalent. Ils signalent ça non seulement aux autorités, mais entre eux, ils se connaissent. Mais il y a aussi culturellement des endroits au Nigeria où les gens se taisent beaucoup par peur d'être attaqués ou par être victimisés. C'est ça qui rend difficile la tâche à l'armée. Mais maintenant, les gens ont compris, ils font des rapports sous couvert, unanimes, pour que les gens ne sachent pas qui a fait le rapport. Alors, ça donne un peu de gain à la section sécuritaire. C'est pour cela qu'à Lagos, tout récemment, ils ont réussi à appréhender certains djihadistes qui se cachaient parmi la population.
Quelles sont les autres initiatives que le gouvernement doit mener, selon vous, pour définitivement régler ce problème Boko Haram?
Vous savez, c'est une première dans le pays. Alors maintenant, ils sont en train d'apprendre chaque jour qu'il ne fallait pas se retirer tout de suite parce que lorsqu'ils ont gagné du terrain, les insurgés attaquent ailleurs et ils se déplacent et les autres reviennent. Et maintenant, ils ont fait de sorte que par chaque région, il y a des camps militaires qui sont vraiment actifs et non pas dormants comme on le faisait parce qu'il n'y a pas de guerre, les gens sont là, il n'y a pas d'ammunition, il n'y a pas de personnel. Maintenant, on laisse ici et là quelques régiments de l'armée et de forces de sécurité unifiées, c'est-à-dire l'armée de l'air, l'armée de terre, les policiers, les gendarmes, tout ça. Alors, et surtout, parmi les locaux, on fait aussi des recrutements et les gens restent sur place.
Le professeur Akambi Lupeju de l'Université de Lagos au Nigeria.
VOA Afrique en direct de Washington.
Conflit en Syrie, le président russe Vladimir Poutine annonce aujourd'hui la signature d'un accord de cessez-le-feu entre le régime du président Bachar al-Assad et l'opposition armée syrienne. Le cessez-le-feu pourrait être mis en œuvre à tout moment, a déclaré le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu, également ce jeudi. La Turquie et la Russie prévoient sa mise en application en Syrie avant le début de la nouvelle année, a souligné le ministre turc. Et toujours concernant le conflit syrien, Vladimir Poutine a également annoncé une réduction de la présence militaire russe en Syrie, où l'aviation russe mène une campagne de frappe aérienne en soutien au régime de Damas depuis septembre 2015. Processus de paix israélo-palestinien, le secrétaire d'État John Kerry a prononcé mercredi à Washington un discours dans lequel il a mis en exergue sa vision pour un règlement pacifique de la crise israélo-palestinienne, quelques jours avant son départ en tant que chef de la diplomatie des États-Unis. Il a accusé Israël d'être engagé dans un projet exhaustif pour s'approprier des terres palestiniennes et réitéré aussi le soutien américain à la solution des deux États. Timothée Donangmaï.
Le chef de la diplomatie américaine est revenu sur la décision des États-Unis de ne pas opposer leur veto à la récente résolution du Conseil de sécurité de l'ONU dénonçant la poursuite des implantations juives en Cisjordanie.
The vote in the United Nations was about preserving the two-state solution.
Le vote à l'ONU, a-t-il dit, visait à préserver la solution des deux États. C'est ce que nous avons défendu. Israël comme un État juif démocratique, vivant en paix et en sécurité aux côtés de ses voisins, c'est ce que nous tentons de préserver dans notre intérêt et le leur. John Kerry a aussi déploré le désaccord exprimé publiquement par les autorités israéliennes avec les États-Unis sur ce dossier.
Regrettably, some seem to believe that the US friendship means the US must accept.
Malheureusement, certains semblent penser que l'amitié des États-Unis signifie que les États-Unis doivent accepter n'importe quelle politique, indépendamment de nos propres intérêts, de nos positions, de nos propres paroles, nos propres principes, même après avoir exhorté encore et encore à un changement de politique. Les amis doivent se dire mutuellement la dure vérité et l'amitié requiert un respect mutuel, a expliqué le secrétaire d'État américain. Pour John Kerry, les États-Unis n'avaient pas d'autre choix que de s'abstenir d'opposer leur veto à la résolution onusienne.
We could not, in good conscience, protect the most extreme elements of the settler movement.
Nous ne pouvions pas, en toute conscience, protéger les membres les plus extrêmes du mouvement des colonies qui tentent de détruire la solution des deux États. Nous ne pouvions pas, en toute conscience, ignorer les actions palestiniennes qui attisent la haine et la violence. Il n'est pas dans l'intérêt des États-Unis d'aider l'un ou l'autre camp à créer un État unitaire. La solution des deux États est le seul moyen d'assurer une paix durable entre Israéliens et Palestiniens. C'est le seul moyen d'assurer un avenir de liberté et de dignité pour les Palestiniens et un important moyen de faire avancer les intérêts américains dans la région, a souligné le secrétaire d'État John Kerry.
Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.